Voici le décor. Un cimetière devant l'ARS. Des enfants, des jeunes et des moins jeunes sont morts d'une injection expérimentale en phase test. La dernière étude de l'ANSM et l'étude EPIPHAR de mars 2022 prouve que 44 enfants sont morts en dessous de 18 ans en raison de l'injection. C'est relaté par le docteur Denis Agré, que je remercie pour son travail, et il s'appuie uniquement sur les sources officielles et authentiques. En vérité, il y a beaucoup plus d'enfants qui sont morts parce qu'il y a uniquement entre 1 à 10% des données qui remontent. Pour 4166 injections, il y a un cas grave. Parmi les cas graves, 6 à 7% finissent mortellement. Voilà les chiffres officiels. J'appelle maintenant une des organisatrices très investies des parents en colère Vosges qui a organisé ce rassemblement avec l'Union fait la force 88 et aussi le syndicat Liberté Santé au micro qui va parler pour les parents en colère Vosges. J'appelle Sarah. Elle est quelque part, elle est pas loin. Non, Sarah, voilà. Merci, Sarah.
Bonjour à tous. Donc merci d'être venus. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour soutenir. On n'entend rien. Alors, j'ai pas l'habitude de prendre le micro. C'est une première pour moi. Donc je suis Sarah, maman, qui fait partie du collectif. Je vais pas le manger non plus. C'est pas une glace, voilà. Vous m'entendez mieux là? Oui. Donc voilà, je suis maman, donc je fais partie du collectif Parents en colère Vosges 88. Donc aujourd'hui, on est aussi aujourd'hui avec l'UFLF ainsi que le syndicat Liberté Santé. Donc on est unis aujourd'hui pour justement soutenir donc les soignants suspendus et demander donc leur réintégration immédiate. Voilà, et puis on est là aussi contre ce pass sanitaire qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, et puis on est là aussi pour défendre cette crise sanitaire qui dure depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on voit bien que ça recommence. On voit Madame Bourguignon qui nous dit encore qu'il faut remettre les masques. Et aussi, là, on soutient aussi donc les sénateurs. On soutient donc aussi les sénateurs par la loi déposée le 16-6-2022 par les sénateurs pour la suppression de l'obligation vaccinale. Aussi, on sait que le pass sanitaire va être prolongé donc à partir du 23 mars 2020, à partir du mois prochain jusqu'au 23 mars 2023. Donc ce n'est plus possible en fait. On a assez de recul aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Donc j'invite tout le monde à se bouger et à défendre les soignants suspendus. Et par la suite, donc les écoles, on fera sûrement des actions devant les écoles pour défendre justement nos enfants. Puisqu'on les menace aujourd'hui de ces injections expérimentales, on veut vacciner nos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des décès par rapport à ces injections. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, là ce sont juste des décès donc déclarés, à savoir qu'il y en a eu quand même beaucoup, et que les gens ne pensent pas forcément à faire des autopsies, ou alors c'est refusé. Donc voilà, on est là pour ça aujourd'hui, pour défendre nos enfants aussi, surtout. Voilà.
Merci, Sarah. Quelques cas. Mélanie Massip, 16 ans, décédée le 7 août 2021 à Montpellier, myocardite Pfizer. Sophia, 17 ans, décédée à Aix-en-Provence, 2021, embolie pulmonaire bilatérale autopsie. Maxime Beltra, 22 ans, décédé le 26 juillet 2021 à 7, dont le certificat d'autopsie infra-atteste évidemment que son décès est imputable à une myocardite Pfizer. Anthony Rion, 24 ans, étudiant en médecine, décédé le 18 mars 2021. AstraZeneca, autopsie, AVC, thrombotique. Je passe la parole au médecin généraliste Dr. Gauthier Bein, qui est aussi le président de l'Union fait la force 88.
Merci Andreas. Donc comme vous l'avez dit Andreas, je suis médecin généraliste suspendu depuis le 15 septembre comme beaucoup de soignants et président de l'association L'Union fait la force qui rassemble à la fois des soignants suspendus, non suspendus mais qui sont dans notre optique et puis bien d'autres qui sont impactés par cette ancienne crise Covid. Alors nous avons décidé de oser, mais de sauver l'hôpital public. Nous voulons absolument que cet hôpital, qui est le vôtre, continue à vivre dans des circonstances normales. Sauver l'hôpital public, c'est aussi quelque part réintégrer les soignants suspendus. Alors pour ça, nous avons fait un dossier que nous voulions remettre à la directrice de l'ARS Épinal, Rouge, qui malheureusement aujourd'hui n'était pas là. Alors nous sommes venus et nous allons sonner à la porte, puisque on voit un rideau de fer, sans vouloir parler des rideaux de fer comme il y a quelques années. Mais nous allons sonner et essayer de, au moins de remettre ce dossier en expliquant ce que l'on désire pour l'hôpital public, ce que l'on désire pour les soignants, et également ce qu'on désire en coordination avec les parents en colère et le syndicat Liberté Santé, ce que l'on désire comme avenir pour nos enfants. C'est-à-dire un avenir sans masque et sans vaccin pour eux. Tout est documenté, tout est dans ce dossier que nous allons essayer de remettre. On va sonner.
Je suis devant l'agence et je voudrais savoir s'il y a possibilité de remettre ce dossier que nous apportons à un responsable de l'agence. Eh bien, c'est pour la sauvegarde de l'hôpital, c'est pour la réintégration des soignants et la sauvegarde de nos enfants. C'est par rapport aux manifestants. Je sais que Mme Aubrège n'est pas là, mais M. Couval est peut-être là.
D'accord.
Vous avez sûrement un responsable d'agence quand ces deux personnes ne sont pas là. Écoutez, oui, j'aimerais bien quand même remettre le dossier en main propre à quelqu'un. Vous me donnerez votre nom et je vous donnerai ce dossier. Voilà, on va attendre la personne. Voilà, donc c'est pas uniquement les soignants, c'est vraiment toute la santé qui est en danger. Et je pense que vous êtes tous, bien sûr, vous êtes avec nous, on le sait bien. Mais la population devrait le savoir également, devrait en être informée. C'est pour ça que je remercie la presse qui est là. Va pouvoir relayer un petit peu nos paroles et essayer de faire bouger un petit peu la population qui va enfin se rendre compte que malheureusement c'est elle qui va en pâtir. Alors pendant qu'on nous ouvre la porte, on va peut-être passer à quelques témoignages. Benoît, si tu veux bien.
Donc, j'appelle pour le premier témoignage le docteur Benoît Acquemano, qui a écrit un livre que je vous recommande très très chaleureusement. Et j'ai refusé l'injection. Crise de la COVID-19, constat et réflexion. Donc, c'est un livre où Benoît apporte avec beaucoup de pertinence et de pédagogie son point de vue sur la vaccination, entre guillemets. Il y a des chapitres très courts sur plusieurs domaines. Il s'appuie uniquement sur les études des revues scientifiques internationales et des grands journaux d'information. Donc, je lui donne la parole. Et Benoît, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le livre d'abord et après ton avis sur la situation actuelle?
Eh bien, écoutez, merci de m'inviter et de me donner la parole. Alors oui, moi j'ai fait un livre.
Alors, vous êtes madame? C'est madame Lemoine. Donc je vous remets officiellement le dossier concernant les revendications des parents en colère, de l'Union Fait la Force et du syndicat Liberté Santé. Je vous remercierai de bien le transmettre à madame Ouvrage-Guillot. Merci
bien. Et si vous voulez assister au rassemblement, vous êtes chaleureusement invité aussi. Hein. Parce qu'il faut qu'on dialogue, il faut qu'on échange, et après il faut qu'on prenne une décision libre et éclairée, surtout par rapport aux enfants. Donc, Benoît continue.
Bah écoutez, oui, je disais, moi j'ai écrit un livre sur la crise de la Covid. Et je suis donc un médecin généraliste et je travaille dans une structure également médico-sociale. Et j'ai été suspendu du coup de mes fonctions parce que j'ai refusé l'injection. Et je me suis dit, tiens, c'est un choix controversé, c'est un choix que les personnes ont du mal à comprendre, en tout cas pas toutes, peut-être pas vous qui êtes là, mais en général c'est un choix qui est mal compris. Donc je me suis dit, je vais écrire un livre. Et je vais expliquer, parce que expliquer le refus vaccinal, c'est quelque chose de compliqué à faire et vous ne pouvez pas expliquer en quelques lignes. Donc je me suis dit, je vais décrire le système médical, parce que c'est parce que vous connaissez le système médical de l'intérieur qu'effectivement vous pouvez refuser l'injection. En tout cas, vous avez beaucoup plus de données, beaucoup plus de recul, vous avez une vision beaucoup plus profonde et précise des problématiques. Et ça, ça amène effectivement, en tout cas ça peut amener un refus. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce que j'aimerais dire, c'est que du coup, j'aimerais que les gens comprennent ce refus vaccinal. En fait, il y a clairement une on va dire, on met les gens dans des cases. Généralement, on les juge. Et un médecin ou un soignant non vacciné, c'est un soignant complotiste. Je résume un petit peu, mais c'est quand même un peu la pensée qu'on peut avoir, la pensée ambiante, en tout cas aussi dans les médias ou qui est reportée dans différentes sources d'informations. Ce que j'ai voulu dire, c'est dire non, mon choix est sensé. Moi, mon choix est basé sur le bon sens. Donc ça, j'arrive à le démontrer dans mon livre. En tout cas, dans mon livre, je mets des sources et j'explique pourquoi j'ai fini par dire non à cette injection. À titre personnel, et puis après, j'explique effectivement que je ne suis pas opposé à la vaccination. D'ailleurs, je la conseille dans mon livre à partir d'un certain âge. Mais pour ma part, c'était un choix de bon sens et c'est ça que j'ai voulu démontrer dans cet ouvrage. Mais pour faire ça, bien sûr, il fallait aussi expliquer comment marche la médecine. Et la médecine, c'est beaucoup de conflits d'intérêts, je pense que ça, vous le savez. Mais je crois qu'on n'a pas idée à quel point ce lobbying est important. Donc ça aussi, dans le livre, je l'explique. J'explique à quel point c'est profond, à quel point ça le conditionne en tant que médecin. Et j'explique même que les médecins sont victimes. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ah, ils sont main à main dans le labo. C'est pas si simple que ça. Ils sont clairement victimes de ce système. Donc tout ça, finalement beaucoup de complexité dans la situation et on finit par peut-être croire que le vaccin est un vaccin sauveur et qu'on va vacciner tout le monde et puis passer à autre chose. Mais ça, vous l'avez bien vu, ça n'a pas fonctionné. On a vacciné quand même énormément de monde, ça il faut que vous en rendiez compte. Et pour autant, là, aujourd'hui, j'ai la radio et on est sur la 7e vague qui nous est annoncée. Donc vous voyez, c'est pas la solution. En tout cas, ce n'est pas l'unique solution, c'est ce que j'ai dans mon livre. Donc, j'ai également une ouverture sur les médecines alternatives, sur les médecines, voilà, sur la phytothérapie, tout ça, je le décris dans mon livre pour dire, vu que le docteur Bain parlait justement de notre médecine, moi, clairement, je sais que notre médecine est possible. Et pour ça, il faut inclure d'autres approches. faut pas rester quand on est sur le bassin sauveur et croire que on va passer à autre chose une fois qu'on va vacciner tout le monde. Donc ça aussi, je l'amène dans cet ouvrage. Et après, si on reste sur le sujet de cette réunion, bon, moi j'ai été suspendu parce que j'ai refusé l'injection. Et c'est clair, je demande effectivement d'être réintégré maintenant. Alors, actuellement, je travaille parce que j'ai eu le Covid. Donc, je travaille 4 mois. Dans quelques semaines, je serai de nouveau suspendu. Et si vous voulez, quand vous suspendez un soignant, d'abord, peut-être qu'il faudrait-il prouver que le vaccin empêche de transmettre la maladie. Je crois que là, on est quand même assez d'accord que ce n'est pas le cas. Donc, à ce moment-là, vous voyez, on est parti sur une croyance du vaccin. Le vaccin sauveur, c'est le vaccin qui empêche d'être malade et c'est le vaccin qui empêche de transmettre. Mais ce n'avait pas été le cas. Là, il suffit de regarder la littérature scientifique pour se rendre compte que ce vaccin n'empêche pas de transmettre la maladie. Donc, dans ce cas, on doit en prendre compte, on doit dire, ah, tiens, réintégrons les soignants, on en a besoin. Peut-être qu'effectivement, c'est quelques milliers de personnes, mais on a cruellement besoin que les soignants soient là, en poste, pour travailler. Vous savez, quand vous retirez une personne d'un système des urgences, une personne de la tournée médicale, enfin, des soignants, c'est déjà extrêmement difficile et très compliqué de pouvoir continuer à travailler. Donc là, on a des personnes qui sont prêtes à bosser, on a un vaccin qui n'empêche pas la transmission, on n'a du coup aucun argument scientifique de les laisser à la maison. Donc ça, c'est un point important. L'autre point important que j'aimerais souligner, je vous parle de ma situation personnelle. Moi, je suis, du coup, comme je vous l'ai dit, je suis suspendu, enfin, j'ai réintégré mes fonctions, mais je vais être suspendu dans quelques semaines. Ils m'ont laissé, du coup, 4 mois. Mais ce 4 mois est vraiment arbitraire. Et si vous regardez, du coup, les études, là, j'en ai une que j'ai en tête et qui a été faite il y a quelques jours, elle est sortie sur le Lancet. Le fait de tomber malade naturellement de la Covid vous immunise au moins pendant minimum 1 an. Et l'intérêt de vacciner, donc de me faire vacciner dans quelques jours, est complètement nul. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt que je fasse une injection sachant que j'ai eu le Covid de manière naturelle. Vous voyez, ils ont essayé de comparer immunité naturelle et immunité liée au vaccin. On se rend compte, et ça, ce n'est pas une surprise, parce que ça, on le savait déjà pour la grippe et pour d'autres pathologies, que l'immunité naturelle est bien plus forte que celle que causait le vaccin. Le vaccin, vous devez le répéter tous les 3-4 mois. Par contre, l'immunité naturelle, on est effectivement au moins sur 1 an, voire plus. La Lancet parle même de 20 mois. Donc 20 mois quand même d'immunité. Donc je dis à l'ARS qui est derrière moi, moi j'ai envie de continuer à bosser, je suis médecin, c'est une vocation, j'ai envie de poursuivre mon travail. J'ai eu la Covid pendant 4 mois, laissez-moi bosser au moins 20 mois. Après, on en reparlera en fonction des données qu'on aura. Mais vous voyez, on n'arrive pas à coller à la réalité scientifique. Ici, si vous êtes là, on va nous caricaturer et puis dire que vous êtes complotiste, vous ne regardez pas la réalité. Moi, je regarde la réalité. Et la réalité, c'est que lorsqu'on a eu la Covid, on est immunisé pendant un certain temps, qui n'est pas 4 mois, qui est au moins 1 an. Voire peut-être 2, et que du coup, le fait de faire le vaccin et de faire un rappel, en tout cas pour moi qui ai eu l'infection Covid, n'est pas utile, n'est pas nécessaire. Ça, c'est la science qui le dit, pas moi qui l'avance. Donc ça serait bien que les autorités aussi le comprennent et puissent renouveler leur connaissance. Parce que c'est ça que je regrette, c'est on doit pouvoir toujours être à la page au niveau scientifique. Vous avez toujours des données, ça, regardez comment s'est passée la crise de la Covid. Il y a toujours eu des données contradictoires, ça vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Donc on doit toujours regarder récemment, tiens, qu'est-ce qui s'est fait dernièrement dans les études. Et là, on arrive enfin au moment où on peut comparer immunité naturelle et immunité artificielle. Là, on commence à avoir des données qui nous disent effectivement que l'immunité naturelle est plus forte. Et dans mon cas personnel, c'est clairement une injustice de me suspendre dans quelques semaines sous prétexte que j'ai eu le Covid pendant juste 4 mois et que maintenant, du jour au lendemain, je vais recontaminer tous les patients que je croise. Donc voilà, ça c'était quand même un point important si on est dans la réintégration des soignants. Vous avez aussi des soignants qui ont eu la Covid et qui sont de nouveau suspendus, comme moi je devrais l'être si rien ne change dans quelques semaines. Merci.
Merci beaucoup Benoît. Donc on va rembobiner la cassette. On va revenir à la présentation parce que Marc était occupé tout à l'heure avec France 3. Donc, je laisse présenter le syndicat Liberté Santé.
Merci, Andreas. Bonjour tout le monde. Oui, donc je suis en fait le lien entre l'UFLF 88 et le syndicat Liberté Santé. Vous m'entendez mieux?
D'accord, je vais faire comme ça. Donc je suis le lien, on appelle ça un référent antenne locale, c'est-à-dire que le syndicat Liberté Santé est un syndicat national qui s'est créé au mois d'août 2021 en relation avec les dires de notre président par rapport à l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et compagnie. Et donc comme les syndicats et les ordres étaient, ne disaient rien et étaient carrément pro ces mesures gouvernementales, voilà, ce syndicat s'est créé à ce moment-là. Il regroupe des soignants, des salariés, il regroupe des professionnels de santé libéraux. Les uns sont suspendus, les autres sont interdits d'exercer. Ils ne sont pas interdits de cotiser à tout ce qu'on voudra, etc. Ce qui, pour les professionnels libéraux, les condamne très souvent à se radier. Ce que l'ordre n'est dans ce cas-là pas obligé de faire, et donc on ne pourra pas accuser les ordres d'avoir radié les professionnels de santé. C'est juste qu'il suffit de laisser le licol que les professionnels de santé libéraux ont autour du cou se resserrer pour qu'ils soient éjectés. Donc il y a des soignants, il y a des soignants salariés, des professionnels de santé libéraux, etc. Il y a des vaccinés, il y a des non-vaccinés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont vaccinés mais qui ne voulaient pas l'être et qui participent au ton qui permettent au syndicat Liberté Santé d'exister, d'avoir des actions et d'aider les soignants. Alors j'en viens un petit peu au rôle différent de ce syndicat. Je pourrais vous donner, pour ceux qui sont intéressés, ce qu'on appelle le manifeste du syndicat Liberté Santé, qui est leur profession de foi, si vous voulez, et qui indique un petit peu les différentes actions dans lesquelles, par rapport auxquelles ils agissent. Au niveau très local, nous sommes rentrés en lien avec le syndicat Liberté Santé par rapport aux aides que ce syndicat pouvait fournir et qui devait passer expressément par une association. Donc l'UFLF est donc l'antenne locale qui permet de réceptionner les aides qui sont faites par le SLS aux soignants. S'il y a des gens dans l'Assemblée qui sont intéressés par ça, ils n'ont qu'à venir me voir après. Voilà, donc le syndicat Liberté Santé propose d'aider financièrement les gens qui ont été mis à la rue sans salaire, sans plus de possibilité de gagner leur vie. Et donc, voilà, ils donnent ce qu'ils peuvent, mais ils font des aides directes aux soignants suspendus. Et ils font des aides juridiques. Alors, les aides juridiques, ce sont des aides éventuellement financières lorsque des actions qui peuvent être soutenues par le SLS, sont acceptées. Donc, ça peut être une aide financière pour participer au coût des honoraires d'avocat, etc., etc. Ça peut être du conseil. Les soignants, les professionnels de santé ont besoin de conseils, ont besoin du décryptage de la loi. Il y a des avocats qui travaillent en lien avec le SLS, qui font un travail absolument exceptionnel. Et oui, Maître Nancy Rizacher qui est ici, que je remercie énormément. Et donc voilà, énormément de bénévoles dans ce syndicat, partout en France, et de plus en plus aidés par des conseils juridiques, par des avocats, par des gens, voilà, un petit peu de partout. De même que l'UFLF ne compte pas que des soignants, mais des gens de tas d'horizons, et qui font la richesse de l'association, et qui font qu'on tient debout. Voilà. Donc, voilà, en gros, ce que je peux dire. Je rajouterai une chose par rapport à une des actions au niveau national du SLS, c'est la sommation interpellative qui a été faite au niveau des ordres, régionaux des médecins et au niveau des ARS. Cette sommation interpellative contenait de mémoire 60 questions et le SLS aurait aimé avoir des réponses. Nous n'avons pas de réponse. On peut poser des questions, on n'a pas de réponse.
On l'a de nouveau remise aujourd'hui à l'instant à la personne qui est venue chercher le dossier.
Voilà, elle a été remise à nouveau ici à l'ARS aujourd'hui. Et donc voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le SLS, encore une chose, est une émergence de réinfo Covid. Réinfo Covid qui a donné lieu également au CSI, le Conseil scientifique indépendant. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont un peu, qui aiment un peu la science, moi je vous conseille d'aller trouver le CSI. Vous avez pour aller au bas mot 120 heures d'écoute sur de la science. Je dis ça également pour messieurs et mesdames les journalistes. On peut trouver des gens qui sont des scientifiques, qui sont des pointures dans leur domaine et qui vous parlent de la science, qui ne se contentent pas de donner des informations comme ça à la va-vite, enfin, sans explication scientifique. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Et donc, s'il y a des personnes adhérentes du SLS qui veulent me trouver, eh bien, je suis pour le secteur. Merci.
Merci, Marc. Donc, on continue avec des témoignages de soignants qui sont, comme l'a dit Marc, jetés dans la non-existence, dans des situations dramatiques. Donc, j'appelle Carmen et Nadège au micro. Et donc, je remercie encore une fois très chaleureusement Maître Nathalie Zacher qui défend les soignants, qui défend aussi les enseignants qui n'adhèrent pas à la doxa officielle, qui essaient d'avoir un avis discordant. Donc c'est très important parce que tous ceux qui se battent aussi de notre côté aimeraient bien entendre un mot, c'est la justice et de rétablir la justice et le droit. Donc qui veut commencer? Nadège, Carmen?
Donc je vais témoigner, je vais vous expliquer un peu mon témoignage. Donc je suis Nadège, aide-soignante, enfin j'étais aide-soignante suspendue. Donc je travaillais dans un EHPAD. Et bien évidemment j'ai refusé l'injection expérimentale. Et c'est vraiment une honte d'avoir suspendu tous nos soignants alors que nous sommes en période de crise. On a besoin de nous pour sauver l'humanité, soigner les gens. Et nos dirigeants nous mentent. Donc je vous invite à réfléchir, à chercher les bonnes informations. Et parce que tout ça, c'est pas normal, quoi. Il se passe des choses, il se passe un plan. Et réveillez-vous. Et j'ai de la colère, j'ai de la haine pour ceux qui nous gouvernent. Et c'est un cri au secours, quoi. Et soutenir les hôpitaux, parce que c'est pas d'aujourd'hui aussi que les hôpitaux ont du mal au niveau du personnel. Les moyens financiers, on interdit les gens, les médecins de soigner. Ça, c'est pas normal. Et là, il faut tout faire pour changer tout ça, pour avoir le droit de soigner, d'avoir le libre choix et du consentement libre et éclairé qu'on n'a plus, parce que tout à petit on nous prend notre liberté. Et je suis pas une complotiste, comme a dit mon directeur lors de la réunion de ma suspension, parce qu'il m'a dit que j'étais, là vous rendez compte, que je suis la seule complotiste de l'établissement. Et ben non, parce que j'ai cette capacité de réfléchir et de refuser. Il a joué toutes les cartes de la manipulation et j'ai pas calé. Voilà. Merci.
Bon, moi je suis Carmen Sarras, j'étais kiné à Vin-les-Bains. J'ai travaillé en libéral, j'ai travaillé en France depuis 15 ans. Depuis deux ans que j'ai intégré dans la maison de santé, on a monté tout un projet, c'était génial de travailler là. Et moi je trouve que c'est pas normal qu'on nous annonce par une lettre trois semaines avant, le 15 septembre, trois semaines, le 15 septembre on n'a plus le droit de travailler. Moi, mon préavis, il va six mois. Alors, avec un accord avec la mairie, c'est un peu particulier. J'ai posé mon préavis que depuis janvier. Du coup, moi, je dois payer un loyer de 9 mois. j'ai aucun salaire, j'ai pas de revenus, j'ai pas de droit de chômage parce que j'ai travaillé en libéral. Et j'ai deux enfants adolescents qui vont à l'école en internat et tout, et que je dois soutenir. Et moi, je ne comprends pas comment la vaccination obligatoire a pu avoir lieu. Comme il a dit tout à l'heure Benoît, que ça protège nous-mêmes. Et pendant toute la crise, pendant tous les deux ans, moi j'ai soigné avec vigilance, en respectant les règles d'hygiène. Je n'ai pas eu de cluster, aucun souci dans mon cabinet. Et on met quand même l'obligation vaccinale qui protège moi-même. Et si les gens, ils ont peur, ils peuvent porter leur masque, ils ont le libre choix d'aller dans un autre cabinet et autres. Mais on me met dans la rue, moi. Et c'est incroyable. Moi, je me sentis très humiliée, c'est difficile à décrire comme dans une dépression, parce que à quelque part, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai dû attendre d'arrêter mon cabinet. J'ai pas eu le droit par rapport à l'ordre de le tenir plus que 3 mois. Ils m'ont obligé de le fermer, malgré qu'il y a ma collègue qui travaille dans ce cabinet, qui est vaccinée, qui aurait pu continuer. Du coup, elle se trouve aussi sans travail, parce qu'elle n'a pas pu reprendre le cabinet. Elle a travaillé chez moi à mi-temps. Et du coup, j'ai arrêté mon cabinet fin de l'année. J'ai dû attendre encore 2 mois déjà pour pouvoir faire une autre activité. Ça fait 5 mois sans pouvoir faire autre chose. Et encore aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de faire autre chose. C'est vraiment dur à vivre. Et espérons que, au niveau de l'obligation vaccinale, qu'il y a quand même des gens qui se réveillent et que voient que c'est vraiment pour soi-même, c'est un propre choix de se faire vacciner ou pas, et ça ne sauve pas les autres.
Merci pour ce témoignage très fort en émotion. Elles gardent leur dignité, elles se battent, en fait, pas uniquement pour elle, pour tout le monde, pour qu'on rétablisse aussi les règles, l'ordre, parce que l'obligation vaccinale, c'est complètement illégal par rapport aux traités internationaux. L'Union fait la force 88 et quelques membres des parents scolaires étaient ce week-end en Allemagne pour une grande manif européenne. Nous avons appris que c'est la même galère ici, l'autre côté du Rhin. Les soignants sont suspendus depuis l'année dernière, mais comme ça traîne un peu, les soignants reçoivent maintenant un courrier comme quoi ils doivent payer 2 500 € d'amende. Et s'ils ne le font pas, mais à bout d'un moment, ils dégagent. Voilà. Ça se passe comme ça aussi de l'autre côté. Beaucoup de médecins allemands sont partis à l'étranger et les autres se battent comme ils peuvent, mais c'est un mépris, un acharnement qu'on n'a jamais connu auparavant. Maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un, et c'est Liliane qui va présenter notre invitée surprise. Liliane, est-ce que tu peux nous dire quelques mots?
Oui, bien sûr. Je voulais juste vous dire que le visage de Maxime Beltra, donc qui est décédé le 26 juillet, comme vous l'avez entendu, lors de la manifestation du 17 juillet 2021 à Paris, j'étais en contact avec l'ancien responsable national du collectif Parents en colère, et c'est comme ça que voilà, le collectif est arrivé dans les Vosges, sur Saint-Dié-les-Vosges au départ, et maintenant il est étendu avec Sarah et Aurore et le reste et Michael sur Épinal. Je voulais vous dire qu'il y a eu l'appel du 18 juin l'appareil, en 1940. C'était De Gaulle. Et est-ce que vous connaissez tous Marc Doyer? Il a fait un collectif Liberté. Il est avec Verity France. Et Verity France, oui. Vérité en français. Et lors donc du Paris Bastille, donc le samedi 18 juin 2022, j'étais présente. Il y a eu de nombreux témoignages et entre autres, la maman d'Anthony Rio, 24 ans, en 6e année de médecine. Les parents ne voulaient pas qu'il se fasse vacciner, il s'est fait injecter et comme vous voyez, il est décédé 8 jours après. Donc, ce qui se passe, c'est un génocide humain. Et nous sommes là pour dénoncer et que cette injection, ce n'est pas une vaccination ordinaire. Et lors de mon intervention sur Paris, j'ai rencontré Chloé Frameri, et nous sommes tous heureux de pouvoir l'accueillir et de lui laisser la parole. Merci Chloé d'être venue parce que nous te suivons depuis tes débuts. Nous savons que pour toi aussi, c'est pas facile. Je viens d'apprendre que tu n'es plus prof de mathématiques, c'est ça? Donc, je te laisse la parole et merci à toi encore.
Merci beaucoup, Liliane. Merci parce que c'est toi qui m'as invitée ici. Je ne connais pas Épinal et je suis ravie de faire partie de cette journée, de votre événement et de pouvoir soutenir comme je peux les personnes qui en ont besoin. De nouveau, je suis trop émotive, ça joue des tours, mais quand j'entends des personnes comme ça qui parlent avec leur cœur, qui parlent avec leur vécu, quand je vois tous ces visages, toutes les personnes, et ça c'est que la partie émergée, hein, ça c'est que celle qu'on connaît, mais il y en a tellement d'autres. Des personnes qui ont laissé la vie parce qu'elles faisaient confiance, parce qu'on leur avait dit que les autorités veulent notre bien, font tout ce qu'il faut, que parfois il y a des erreurs et que c'est du coup de l'incompétence, que c'est de la négligence, que c'est de la maladresse. Depuis deux ans et demi les maladresses, depuis deux ans et demi l'incompétence, le manque de prudence, il nous parle de principe de précaution par rapport aux chiffres, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à l'hydroxychloroquine ou encore l'ivermectine. Mais qu'en est-il de cette injection? Est-ce qu'on parle du principe de précaution pour le vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson? Est-ce qu'il y a eu une période probatoire comme il en faudrait? Vous le savez tout autant que moi, il faut au moins 10 ans pour faire un vaccin. On est à même pas un an. Bon, mais ces sujets-là, on les a éprouvés, on les a évoqués, on les a creusés, on les a nous, on les occulte pas. Ont été occultés par ces gens qui, par exemple, n'ont pas publié les auditions du 24 mai au Sénat par l'OPECS. Des auditions qui ont eu lieu avec des scientifiques, avec des victimes, des parents de victimes, avec des collectifs comme les navigants libres, vous savez, les personnels de l'aviation aussi. Le collectif Où est mon cycle, avec toutes ces femmes qui se retrouvent sans règles ou avec des règles qui n'arrêtent pas, avec des ablations de l'utérus à 25 ans, de jeunes femmes qui ont un cycle qui ne veut plus rien dire. Et ça, c'est encore des troubles qui sont, je ne peux pas dire légers, mais disons, qui sont vivables. Et puis on a à côté Marc Doyer, que tu évoquais tout à l'heure, qui a perdu sa femme Morissette, après des mois d'une maladie qui était apparenté à Creutzfeldt-Jakob, mais en fait, qui n'était pas cette chose-là. Tous ces symptômes, toutes ces paralysies, toutes ces thromboses, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les pathologies habituelles. Et là, on les voit survenir, et on fait, eux là, les médecins, les personnels qui sont encore en poste, eux, parce qu'ils ont obéi, ne voient pas le rapport, ne pensent pas au lien avec cette injection. Mais heureusement, il y en a des conscients. Hier, j'ai mangé avec un médecin suisse qui est en train de mettre en place l'oasis de santé que vous connaissez peut-être au Maroc. Il travaille avec Irène Grosjean. Et lui, il a les références, il a les chiffres et il avertit les gens. Et il fait les liens. Et il a même sauvé des personnes parce qu'il existe des protocoles de détoxification qui permettent d'améliorer la situation. Si on peut l'améliorer, et puis en tout cas, faire en sorte que ces personnes puissent avoir une vie normale et comprennent ce qui s'est passé. Moi, j'ai été, comme tu l'as dit très bien, Liliane, tout à l'heure, j'ai été virée, officiellement révoquée. Vendredi, je l'ai appris, vendredi 24 juin, c'est un avis du Conseil d'État, chez nous, c'est le gouvernement du canton de Genève, donc Genève où se passe, où se décide toute l'infamie qu'on connaît depuis 2 ans et demi, où vous trouvez l'OMS, le Forum économique mondial, l'ONU, l'Alliance Gavi de vaccination, et puis aussi l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et puis la Croix-Rouge, dont le patron, dont le président fait partie lui aussi du conseil d'administration du Forum économique mondial, comme la présidente de l'OMC et comme tant d'autres décideurs à la fois politiques, dans le public et aussi dans le privé. Je ne vous ferai peut-être pas la liste aujourd'hui encore de toutes les personnes qui sont dans ce conseil d'administration du Forum économique mondial, mais c'est quand même intéressant de voir que ces personnes qui sont à la tête d'organisations internationales, par exemple, sont aussi dans l'espèce de gouvernement du Forum économique mondial, le Web de Klaus Schwab. Et on ne nous dira pas que ces gens-là n'ont pas des conflits d'intérêts à minima. J'ai été révoquée donc, pour les 9 raisons que vous avez peut-être vues passer, dont le fait d'avoir parlé de la liberté vaccinale en classe. C'est la seule chose qui m'est reprochée en classe. J'ai évoqué le fait qu'en Suisse, il n'y a pas d'obligation vaccinale jusqu'à présent. Les enfants, les parents d'élèves ne le savent pas. Et il me semblait que c'était mon devoir de donner cette information à la connaissance des gens qui font subir ces injections pour qu'elles aient le fameux avis éclairé sur la question. Eh bien, ça m'est reproché parce que je manque de fidélité à l'État, que je déroge au devoir de réserve et au devoir d'exemplarité. Comme le fait d'avoir porté un gilet jaune avec un ananas dessous. Ça, c'est très fort. Ça fait partie des chefs d'accusation. J'ai parlé également du statut vaccinal de notre conseiller d'État, donc c'est un peu le ministre, qui est en charge de la santé et, ce qui est assez cocasse, aussi en charge de la police. C'est rigolo, voir quand même des liens. Et donc, ce monsieur, Mauro Poggia, pour ne pas citer, avait un statut vaccinal non vacciné au 23 octobre, tout en nous mettant la pression, toute la population, pour se faire injecter, y compris aux soignants, dont il disait qu'il y avait une erreur de casting pour tous les soignants qui ne s'étaient pas fait injecter. C'est intéressant. Et alors, quand j'en parle, forcément, ça m'est reproché, parce que je déroge de nouveau, voire de fidélité, à l'État. Il avait fait également un barbecue au mois de juin de l'année 2020, dans lequel il ne portait pas de masque en prétendant qu'en se mettant en pied, il pouvait éviter le virus. Ça a été relaté par un journal local, la Tribune de Genève. J'ai relayé cet article et ça m'est reproché. J'ai également... J'ai montré les tunnels d'or qui sont taxés d'antisémites par la doxa médiatique et la CICAD, donc la fameuse association qui prétend lutter contre l'antisémitisme et la diffamation et qui a alerté mon cas, c'est-à-dire des choses complètement fallacieuses, comme quoi j'aurais tenté d'importer le mouvement des Gilets jaunes en Suisse ou que j'aurais été à l'origine des manifestations anti-masques de Genève, mais absolument pas le cas. Chaque fois que la CICAD a envoyé un courrier à l'État de Genève, au DIP, département de l'instruction publique, et bien juste après, il y a eu un entretien de service, un deuxième entretien de service, et puis l'enquête administrative qui a conduit à mon licenciement aujourd'hui. D'autres raisons complètement loufoques et indéfendables au regard de la loi qui m'ont été reprochées, je sais que je ne suis pas la seule, je sais qu'en France, c'est pire, parce qu'il n'y a pas que les soignants, il n'y a pas que c'est les gendarmes. Et les gendarmes qui sont mis en otage, qui sont suspendus sans salaire depuis le 15 septembre. Il y a toute une panoplie de professions dont les médias ne parlent pas et dont nous ne parlons peut-être pas assez, qui ont subi les mêmes chantages et qui sont obligés de subvenir comme ils le peuvent à leurs besoins sans pouvoir prétendre au chômage. Mais par contre, ce que j'ai appris récemment, c'est que une infirmière avait demandé le RSA et qu'elle l'avait obtenu. Donc c'est quand même un créneau à explorer. N'empêche que toutes ces personnes, dont certains sont ici parmi nous, subissent cette suspension. Il n'en est pas une, en fait. C'est un sabotage, c'est une interdiction d'exercer son métier, de soigner, de prodiguer ses soins et d'être au service de la population, simplement parce qu'elles ont pas, elles n'ont pas envie d'être un cobaye pour une entreprise, Pfizer en l'occurrence, qui en est à plus de 10 milliards d'amendes pour corruption, mise charlatanisme, mise en vente de médicaments sans autorisation, problème de santé, de corruption, je l'ai dit au départ, pot de vin, exactement. La liste est longue comme le bras. Et ces gens-là, on devrait encore leur faire confiance sur un produit qui n'a pas fait ses preuves, qui a fait des dizaines de milliers de cas, ça veut dire des personnes et non pas des effets, d'effets graves, rien qu'en France, plus de 44 000 morts dans l'Union européenne, et encore, ce sont les chiffres officiels, c'est-à-dire 1% à 10% de la réalité, et ils nous reprochent, et ils nous empêchent de vivre, et ils nous diffament, et ils nous stigmatisent, et ils nous divisent, parce que simplement, on a des doutes face à ces entreprises qui ont tué, menti, manipulé, corrompu, simplement parce qu'on a justement, parce que justement on applique le principe de précaution avec les gens. Et à cause de ça, on est mis à l'écart et on est coupé dans nos moyens de subsistance. Une personne me disait, je ne sais plus où elle est, tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas plus de monde que ça? C'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai qu'on se demande, avec la situation dans laquelle on est depuis 2 ans et demi, pourquoi aujourd'hui, par exemple, on n'est pas 500. C'est ce que je me dis. C'est ce que je lui ai répondu. Ne soyons pas, c'est facile à dire, hein, ne soyons pas trop cruels ou en tout cas jugeants par rapport à ces gens, même s'ils ont une responsabilité, et je la leur laisse, qui n'ont pas, ne sont pas prêts encore, à mon avis, à franchir le pas de prendre leurs responsabilités. À partir du moment où elles viennent ici, où elles regardent les informations, où elles comprennent ce qui se passe, ça leur donne cette fameuse responsabilité qui fait qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière et qui fait que quand elles se couchent la nuit en n'ayant rien fait, eh bien elles dorment très très mal. Et pour éviter ça, je pense que le déni est leur façon de se protéger de cette responsabilité que ces personnes ne prennent pas. Mais quand ces personnes auront autour d'elles plusieurs personnes qui seront soit décédées, soit paralysées, soit thrombosisées, soit je ne sais quoi, eh bien au bout d'un moment, la balance bénéfice-risque, si je puis m'exprimer ainsi, sera donc en faveur du risque. Et ces personnes-là, eh bien, elles franchiront ce pas de la responsabilité parce qu'elles auront vu qu'elles ont tant à perdre et qu'elles ont déjà tant perdu et qu'elles se sont fait déjà tant manipuler. Donc le temps est notre allié et le temps sera le juge. On a été là avant, c'est pas grave, on n'est pas tous fait pareil. Mais je pense qu'il faut garder cet espoir, cette solidarité, cette fraternité, même avec des gens qui se fourvoient et qui ont les yeux, les oreilles et la bouche fermées à double tour. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Je le vois autour de moi. Et ça va continuer. Et c'est en faisant des actions comme aujourd'hui. C'est en restant proche des gens, justement, qui n'osent pas. C'est en restant unis et solidaires, même s'il y a des maladresses parfois qui sont dites, même si on s'engueule de temps en temps. Eh bien, cette force-là de cohésion, d'amour, de vérité, de détermination, elle fera la différence. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis avec vous et on continue le combat. On reprend assez vite, je pense, les manifs. Parce que Estrosi l'a dit, à partir du 1er août, il pourrait y avoir un retour du pass vaccinal.
Oui, c'est ça.
Ah, mais non, mais c'est pas, ils ont des boules de cristal.
C'est comme Atali.
C'est comme Atali, exactement. Ils savent que à l'automne, on y retourne. Parce que le virus, il leur a envoyé un télégramme, je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas accès à ça. Et après, je crois que c'était le Parisien
qui a rectifié en disant non, 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 vous inquiétez pas, il parlait du pass vaccinal aux frontières. Pas du tout ça, il s'est dit. Mais en tout cas, on voit que ce qu'on a prédit, c'est-à-dire ce qu'on a lu et ce qu'on a retranscrit concernant par exemple le pass sanitaire qui ne devait jamais être mis en place, rappelez-vous, hein, il y a plus d'un an, ou l'origine du virus qui n'était absolument pas dans le labo, maintenant qui est remis en question, ou les obligations vaccinales pour un certain pan de la population étaient complotistes à l'époque. On voit ce que c'est devenu, donc soyons patients. Être complotiste aujourd'hui, c'est juste avoir raison un petit peu trop tôt, mais les autres viendront. Donc on garde la foi, on garde la force, on garde le sourire surtout. Enfin, je vous dis ça, moi en tout cas je tâche de le garder, je force personne. Mais en tout cas, je suis ravie d'être à Épinal aujourd'hui. Et même si le nombre n'est pas là, c'est l'intention qui compte. Et de toute façon, ça va circuler, parce que maintenant on a des vidéos, et c'est les vidéos qui sont vues ensuite. C'est pas tellement le nombre de personnes sur place au moment où on parle. Donc à bientôt, sur les barricades, et partout où on peut, et puis on lâche rien, et puis on va y arriver. Et j'en suis certaine, la vérité, elle finit toujours par arriver. Merci à vous.
Merci beaucoup Chloé pour ton message aussi plein d'espoir. On y croit, on ne lâchera rien. Et je te remercie aussi pour ton combat courageux en tant que lanceuse d'alerte dès la première heure. Et tu l'as payé cher. Donc tu es révoqué depuis quelques jours en tant que professeur de maths. Tu étais suspendu avant un an. Et je vous invite à découvrir l'argumentation de ce conseil à l'instruction publique de Genève qui explique les 9 raisons dont on a parlé tout à l'heure, mais on marche la tête. Quand vous relisez, lisez ça, vous ne croyez pas ce qui est devant vous, mais c'est du farfelu, c'est la violation de toutes les lois et on est vraiment choqués quand on voit ça. Donc Noam parle dans sa vidéo sur Odyssée. Donc on va continuer maintenant avec les parents en colère. Donc juste pour Chloé, je voulais lui dire, il y a aussi les enseignants qui sont là, Pascal, professeur universitaire, moi je suis enseignant. Donc il y a les mêmes choses qui se passent ici. Donc parce qu'on a osé réfléchir sur le masque, parce qu'on a osé mis en question peut-être l'utilité de l'injection pour les élèves, on est suspendu, on est discriminé, il y a du harcèlement, on essaie de nous mépriser aussi notre intégrité professionnelle et aussi notre santé. Donc voilà, c'est des deux côtés, c'est malheureusement partout en Europe. Et donc j'appelle Aurélie pour apporter un témoignage supplémentaire des parents en colère Vosges.
Merci. Bonjour à tous, merci pour votre venue, votre soutien dans ce combat que l'on mène depuis pas mal de temps. Il faut qu'on continue à se battre pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nos amis. Donc moi je voulais vous rapporter des témoignages qu'on a reçus de la part de patients quand nous allons devant les hôpitaux. Donc c'est une fourchette, hein. c'est pas tous les témoignages, mais voilà, on a sélectionné ceux qui nous paraissaient être les plus récurrents en fait. Voilà. Alors, Madame S, j'ai fait ma première dose, puis ma deuxième dose au troisième mois de ma grossesse. À mon cinquième mois de grossesse, lors d'une échographie, on a découvert un kyste à la nuque de mon bébé. Il s'agit d'un problème lymphatique. Il commencera la sclérothérapie dans un mois. Mon conjoint a fait sa troisième dose le 10 février et le 10 avril, il est décédé d'une crise cardiaque à 43 ans sans antécédent. Pour moi, le vaccin m'a pris mon conjoint et a rendu mon bébé malade. Madame L, je suis ménopausée depuis presque un an et depuis ma troisième dose, j'ai un retour de règles. Monsieur T, suivi depuis des années pour un diabète, depuis ma troisième dose, je suis complètement déréglée. Je suis d'ailleurs hospitalisée pour comprendre pourquoi mon diabète monte, descend sans raison. Ils ne comprennent pas. Madame U, aide-soignante, j'ai depuis ma deuxième dose des règles hémorragiques. à un tel point que je suis parfois obligée de mettre des couches culottes comme celles des enfants pour éviter de transpercer. Madame H, soignante également. Depuis ma deuxième dose, j'ai des règles quasi tout le mois. Mon gynécologue prétend que cela vient d'un choc émotionnel ou d'un dérèglement hormonal. Pourtant, je suis sous pilule. Je refuse une dose de plus. Madame A, je suis hospitalisée depuis 9 jours car un matin, ma jambe gauche ne pouvait plus bouger. Je sens la douleur, le chaud, le froid, mais elle reste inerte. J'ai subi plusieurs examens, prise de sang, scanner, etc. Mais ils ne savent pas de quoi cela vient. Monsieur C, j'ai fait 3 doses et à chaque dose de plus, je sentais que mon corps avait de plus en plus de mal. À chaque dose, j'ai été malade du Covid et pour finir, maintenant, j'ai perdu la vue à l'œil gauche. Et je suis maintenant suivie par un cardiologue car j'ai fait un petit AVC. Madame V, je viens de subir une intervention chirurgicale cardiaque car j'ai fait un infarctus du myocarde. Pourtant, j'étais quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui mange sainement et je pratiquais des activités comme la marche, etc. Je suis injectée 3 doses. Elle a dit vacciner, mais voilà. Madame C, depuis ma 3e dose, mon taux de cholestérol a explosé. On ne comprend pas pourquoi. De plus, on va devoir m'opérer car mes artères sont obstruées. Monsieur P, suivi depuis de nombreuses années au niveau cardiaque, depuis ma 3e dose, mon état s'est empiré. Je ne me sens plus la force de me lever, j'ai des étourdissements et l'on m'a découvert un petit AVC. Mademoiselle S, jeune femme de 17 ans, depuis ma 2e dose, je n'ai plus mes règles. Madame P, maman d'un bébé né avec des problèmes de reins, donc souvent hospitalisée, je me suis faite vacciner pour pouvoir l'accompagner à l'hôpital. Depuis les piqûres, j'ai des problèmes menstruels, les jambes qui gonflent et quand je parle à mon médecin, il dit « aucun rapport avec les vaccins, je suis constamment fatiguée ». Monsieur G, depuis la vaccination, j'ai déclenché un diabète sévère. Donc voici certains des témoignages qu'on a pu recueillir. Bien souvent, on constate quand même une similitude dans les témoignages une élévation des crises cardiaques de personnes qui avaient quand même pas d'antécédents. Alors on ne peut pas prouver, nous, que cela vient de la vaccination. Simplement, voilà, on rapporte, c'est les personnes elles-mêmes, en parlant avec eux, on leur pose la question, on leur demande est-ce que vous auriez pensé éventuellement que cela pourrait venir de vos injections. Et ces personnes-là nous disent que c'est vrai que depuis les injections, voilà, elles ont ces problèmes-là. Voilà. Donc elles n'ont pas la preuve, les médecins ne donnent pas forcément, n'aident pas non plus à ce niveau-là. On peut aussi dire que donc la plupart, pour ne pas dire toutes, des personnes qui ont été injectées nous rapportent avoir été malades à chaque dose, pour ne pas dire mais malades comme des chiens, pour redire leurs mots. Donc positif aussi. Il y a aussi une histoire de harcèlement qui nous est rapportée de la part de la sécurité sociale, en fait, qui contacte des personnes qui sont cas contact, enfin, où on leur dit voilà, vous allez devoir faire votre prochaine dose, enfin on essaie d'inciter clairement à la vaccination. La plupart quand même ont l'air de nous dire qu'ils ne souhaitent pas faire une dose de plus. Ils ont même l'air d'être très en colère quand ils en parlent. Alors on l'entendait déjà dès la première dose et pourtant beaucoup sont allés à la deuxième, mais on a quand même l'impression que c'est un peu plus sincère quand il le dit. On sent la peur quand même chez les personnes et comme on a tendance des fois à parler quand même quand on a la possibilité avec les directions des hôpitaux à qui on demande en fait pourquoi on ferme l'accès aux soins, donc pour les soins, même pour des consultations, des suivis, en nous disant que ça dépend en fait de l'urgence,
mais en fait on ferme clairement la porte. Il y a des médecins qui refusent des patients adultes même et des enfants parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire ou qu'ils ne sont pas testés, alors que souvent nous, c'est ce qu'on leur explique au niveau des soignants qui sont en exercice, ils sont eux-mêmes au contact de personnes fragiles, eux n'ont pas à prouver quelque part qu'ils sont négatifs, et pourtant on sait qu'on peut être vacciné et porteur, donc c'est encore une inégalité. D'ailleurs, on a également dit qu'aujourd'hui, on manque de soignants, de pompiers, de personnel hospitalier. Il ne faut pas oublier, je dis toujours, ce n'est pas que les soignants, y a bien des métiers qui subissent cette obligation. Par contre, on ne manquera pas de policiers. Je veux dire, les policiers, eux, n'ont pas cette obligation. Donc, allez savoir pourquoi demain on aura toujours des policiers, mais des soignants, des pompiers, non. Donc, c'est des fois important, peut-être que pour le gouvernement, ou je ne sais pas, on pose la question. Pourquoi des hôpitaux, alors pas uniquement des hôpitaux privés, hein, parce que vous avez des hôpitaux publics qui, eux, ne trient pas en fait les patients par rapport à leur état de santé. Par exemple, au niveau du CHRU de Nancy, on permet aux patients qui ne sont pas testés ou qui n'ont pas de passe sanitaire de pouvoir entrer sans avoir à appeler un quelconque médecin ou avoir à montrer une résistance ou une insistance. Donc pourquoi il y a des hôpitaux en fait où on vous laisse entrer sans condition? Et pourquoi des hôpitaux comme l'hôpital Saint-Charles à Saint-Dié ou l'hôpital Émile Durkheim, en fait, pourquoi on refuse des patients? Ça, la réponse qui nous a été donnée au niveau de Saint-Dié, c'est que ceux qui laissent entrer sans prouver que vous méritez ou je ne sais quoi, en fait, sont hors la loi. Voilà. Donc, ils seraient plus hors la loi, quelque part, que eux, qui finalement... je ne sais pas lequel des deux serait le plus hors la loi, celui qui refuse un patient ou celui qui laisse entrer, quoi. Je veux dire, c'est la santé, c'est pas les bars, c'est pas les restaurants, c'est l'hôpital, quoi. Voilà. Donc voilà, je vais finir sur ça. Et puis merci Andreas aussi de faire le.
Merci, c'était mon retour aujourd'hui. Merci beaucoup René. Donc maintenant une prise de parole de Maître Nathalie Zacher, qui va nous apporter son expertise par rapport à la situation, par rapport au droit. Et nous en avons parlé hier avec Nancy. Il y a des raisons afin d'espérer. Ça avance et Nancy va vous l'expliquer.
Merci Andréane. Vous m'entendez? Oui. Bravo déjà à vous tous. Je ne vous cache pas que c'est très émouvant de parler ici, en ce lieu, avec toutes ces personnes décédées. Donc effectivement, je suis un peu émue d'être parmi vous et je vais vous raconter l'histoire, la genèse de cette loi du 5 août qui a condamné des gens, qui condamne encore des gens, qui suspendent des soignants, des enseignants. Alors, bien évidemment, je me joins à tout ce qui a été dit, hein. Moi je ne suis pas médecin, je suis avocate et quand la loi a été promulguée, j'ai eu des nausées physiquement. Le matin où j'ai lu la loi, tout a volé en éclats. Tous mes référentiels, tous mes cours de droit, tous mes 20 ans d'ancienneté au barreau, j'ai cru que c'était une mauvaise blague, malheureusement c'est pas une blague. Et on s'est aperçu, nous juristes, hein, je ne suis pas encore une star, okay, alors bientôt, voilà, c'est mieux comme ça, là, c'est plus à la Elvis, là, c'est mieux, ok, d'accord. Alors je vais plus parler comme ça. Donc en fait, quand on s'est aperçu, alors bon, je parle de mon expérience, je parle aussi d'autres juristes, hein, d'autres avocats, d'autres personnes qui se sont penchées sur cette loi. On s'est aperçu que tous les référentiels et les textes internationaux et même nos textes nationaux, tout était bafoué, mais vraiment, par une loi qui a été véritablement promulguée à la va-vite, écrite avec les pieds, hein, je suis désolée, il faut expliquer les choses comme elles sont, rien n'est clair, sauf que tout est interdit et qu'on est en train de bafouer notre code du travail. Mais d'une manière, on le piétine, on continue à bafouer un ensemble de règles de droit
Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que, évidemment, moi je suis une idéaliste. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, j'y crois et je me reconnais dans le discours de Chloé parce qu'il faut y croire. Donc nous avons fait des actions donc, devant les tribunaux administratifs, en référé dans un premier temps pour faire valoir l'urgence, puis ensuite sur le fond, puis ensuite devant la cour d'appel de Nancy, puis devant les conseils de prud'homme. Et là, dernièrement, nous venons de déposer une question prioritaire de constitutionnalité, enfin, pour démontrer que ce fameux article 12, article 13 et 14 de la loi sont contraires à notre constitution. Alors évidemment, la justice est lente. En temps normal, la justice est déjà très très lente. Mais là, vous l'avez compris, c'est éminemment politique. Donc, c'est encore plus lent, parce qu'on laisse ça de côté. Je ne vous cache pas que là, les procédures entre les présidentielles et législatives, alors là, on n'en entend plus du tout parler. Mais c'est ce que je voulais dire, Andreas, tu as raison, il faut continuer à y croire. Notamment là, on a quelques décisions de conseils de prud'hommes qui sont en train de comprendre les choses. Alors il faut savoir que les conseillers prud'hommes ne sont pas des magistrats professionnels, hein, ce sont des employeurs et des salariés, donc des gens issus de la société civile. Et on a des décisions qui commencent à reconnaître que les suspensions doivent être invalidées avec rappel de salaire parce que c'est contraire au droit. Oui, vous pouvez les saluer, ces décisions, parce que depuis le début, je dis qu'en fait, il faut absolument taper dans le colosse, qu'il faut prendre le mal à la racine et tout doucement faire vaciller cette espèce de rouleau compresseur, j'ai pas d'autre mot, de rouleau compresseur dictatorial, je vais aller jusqu'au bout, qui a fait que le politique a pris le pas sur le sanitaire. Et là, quand on entend les médecins, c'est clair, aujourd'hui, le vaccin ne protège pas ni de la contamination ni de la transmission. Des effets secondaires, on le voit. Il y aura des comptes à rendre aussi hein, sur les effets secondaires. Hein. Là, c'est clair qu'on commence à avoir des dossiers avec des médecins qui, effectivement, reconnaissent le lien de causalité entre l'injection. Moi, j'en ai un, c'est un jeune homme très sportif, 20 ans, qui, après la première injection déjà, hein, a commencé à avoir des effets secondaires graves. Donc, on a des... Malheureusement, je voudrais qu'il y en ait moins hein, des dossiers, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais on commence à avoir des personnes qui ouvrent les yeux et les responsabilités seront évidemment mises en œuvre et il y aura forcément des comptes à rendre. Maintenant, je crois que tout ce qui est fait, chaque goutte d'eau, est pour moi dans l'océan important parce que tout doucement, avec vos mouvements de résistance, et je les salue encore parce que j'avais suivi la marche du réveil, j'étais marraine de la marche de la résistance. Et c'est vrai que tout ça montre qu'aujourd'hui, ce sont les citoyens qui vont reprendre le pouvoir, même si c'est dur, même si on a des personnes qui sont sourdes et aveugles dans l'administration et dans les tribunaux, hein, je dis aussi dans les tribunaux. Donc aujourd'hui, voilà, bravo, mais espérez, c'est le message d'espoir que je voulais dire parce que je pense que le droit est un outil et le droit est au service aujourd'hui de notre cause, à tous, et qu'un jour, forcément, on finira par faire vaciller ce colosse, encore une fois, cet arbitraire qui nous écrase et qui, finalement, va aussi toucher les enfants. J'en discutais tout à l'heure avec Sarah, des parents en colère. Je pense qu'il va y avoir un sursaut, parce que là, en plus, on va toucher aux enfants de façon véritablement concrète et dramatique. Donc, voilà, moi, je voulais juste vous dire... On est à vos côtés aussi, nous les juristes, les avocats, avec nos moyens, avec la lenteur de la justice, avec plein de choses, plein de boulets qu'on a, mais ça fait rien, on avance quand même. Et il faut continuer le combat. Et je vous tiendrai au courant de toutes ces avancées, parce que véritablement, c'est des petites touches, c'est du pointillisme, hein, c'est de l'impressionnisme, mais ça avance quand même, et il faut le faire. Voilà.
Merci Nancy. Donc, ton intervention nous donne du courage et aussi plein de raisons pour espérer par la suite, et comme tu l'as dit, faut continuer à semer des graines et s'attaquer aux problèmes par tous les angles, par l'arme juridique, par tous les dispositifs qui sont mis en place, par les parents en colère, par l'Union fait la force 88 et par le syndicat Liberté Santé. Maintenant, j'annonce une dernière intervention, c'est Marina. Il va prendre la parole et ensuite je laisse la parole il faut ranger après mais c'est d'abord Marina.
Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Marina Collin du Parc, je suis citoyenne et je suis référente des Patriotes 88 Donc je suis la personne qui organise les manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale depuis fin juillet l'année dernière sur Saint-Dié. Et on s'était mis en repos forcé à cause des élections. Alors aujourd'hui, je suis là pour soutenir évidemment le collectif Parents en Colère, parce que évidemment ils m'ont soutenu quand on est en manifestation sur Saint-Dié. Et ils ont tout mon soutien, parce que je trouve que c'est une superbe cause qu'ils défendent, la santé. Ça nous touche tous de très près, hein, les hôpitaux publics, ce qui s'y passe en ce moment. Et surtout nos enfants, parce qu'on est tous parents, grands-parents. Il s'avère nécessaire qu'on continue notre combat pour nos enfants, parce que moi, on n'a pas le droit de toucher à nos enfants. Nous devons, nous en tant que parents, les protéger, et quoi qu'il arrive, je serai toujours la maman pour protéger ses enfants et les enfants de la France, parce que tous les enfants de France doivent être protégés et tous les parents doivent avoir l'attitude que nous avons aujourd'hui de protéger nos enfants, de dénoncer toutes ces lois liberticides à travers la Covid, à travers les injections, les effets secondaires que ça provoque. Mais ça bouge, les amis, ça bouge. Même au sein de l'Union européenne, il y a des personnes qui font bouger les choses pour faire ressortir ces effets secondaires. Et j'ai bon espoir, comme disait Chloé tout à l'heure, peu importe le nombre, l'important, c'est la pertinence du combat. Est-ce qu'un jour ou l'autre, tous ces gens vont se rendre compte qu'ils sont vraiment manipulés, que tout ça, ça a été juste du fric pour enrichir des laboratoires, des lobbies pharmaceutiques. Et vous avez raison, aujourd'hui, nous ne devons pas continuer à être des cobayes pour ces lobbies pharmaceutiques. Parce que eux, contrairement à nous, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de problème de pouvoir d'achat ou de problème de fin de mois. Hein. Ça, c'est certain. Et aujourd'hui, moi, j'ai tenu à être là parce que la santé, j'y ai travaillé en tant que secrétaire médicale il y a quelques années en hôpital public. Donc, je connais très, très bien l'hôpital public. Et ça fait des décennies, je dirais, allez, ça fait bien 30 ans que l'hôpital public est malade. Et aujourd'hui, on n'a rien fait pour le guérir, cet hôpital. On a aggravé la situation. Et c'est ce qui est lamentable. Je pèse mes mots. En 2020, on applaudissait les soignants à la fenêtre avec nos casseroles. Et aujourd'hui, on les vire comme des malpropres, comme s'ils avaient commis un meurtre. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Je veux dire, le soin en hôpital, il doit être pour tout le monde et partout en France. On ne doit pas sélectionner les patients. Je ne crois pas que quand on a prêté serment à Hippocrate, on a dit qu'il faut choisir les patients, etc. Et d'autre part, je voulais venir aussi à autre chose, c'est qu'en 2020, quand le Covid est arrivé, et bah, toutes les autres maladies, que ce soit des cancers, des maladies chroniques, bah, toutes ces personnes-là, on les oubliait. Je vous le dis, je vous parle en gain de cause, puisque mon papa était cardiaque, il n'a pas pu être suivi. Il était fragilisé, bien sûr. Mon père en est mort du Covid parce qu'il n'a pas été soigné par rapport à sa maladie chronique. Et il y en a combien des comme ça? Beaucoup. Et par contre, ces cas-là, on n'en a pas parlé. Alors aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de continuer ce combat. Parce qu'aujourd'hui, il faut réintégrer nos soignants, parce que sans nos soignants, c'est la vie de l'hôpital qui va périr. Et on le voit bien au niveau des urgences, il manque une infirmière ou un médecin, ça déstabilise tout le système de santé et toute une équipe. Donc aujourd'hui aussi, l'hôpital public, c'est un lieu qui me semble devrait soigner tout le monde. Et dans la logique du gouvernement actuel, vous voyez bien que sa logique, elle est comptable, bah, comme cette fameuse ARS, les amis. Hein. L'ARS, ce sont des bureaucrates qui font de la comptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un lit, c'est de l'argent et c'est tout. Le soin, on s'en fiche, et l'être humain aussi. Alors la logique comptable de la Macronie, c'est de privatiser le soin tout simplement pour plus que personne puisse se soigner. Et c'est tout aussi important de défendre l'hôpital public aujourd'hui à cause de ça. Et ce qui est très triste, moi j'ai assisté à un débat il y a quelques semaines hein, par rapport au désert médical. Mais quand on voit l'absurdité des propos qu'on nous tient par rapport à nos soignants, qu'on les suspend alors qu'aujourd'hui on est en pénurie de soignants, mais où va-t-on? Comment va-t-on faire dans les mois qui vont arriver? Alors la seule chose à faire, c'est de battre le pavé, continuer à garder de l'espoir, parce que je sais que c'est très difficile, hein. Bien sûr, comme disait Chloé, on n'est pas aimé de tout le monde, hein, on se fait beaucoup d'ennemis, mais on a aussi beaucoup d'amis, hein, avec qui on s'entend et avec qui on échange les mêmes propos. Voilà, donc je voulais remercier tout le monde, Gauthier Bain, Parents en colère, enfin toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour faire valoir notre combat aux yeux de cette ARS qui doit s'ouvrir et trouver une solution pour que nos hôpitaux retrouvent leur intégrité. Merci à tous.
Merci Marina pour ton discours puissant. Donc Gauthier, il est médecin, il va certainement nous donner quelques recommandations comme il fait chaud. Et je crois qu'il a aussi une surprise pour vous.
Alors d'abord, merci à tous d'être venus. Je ne vais pas dire si nombreux, parce que c'est pas vrai. Ça ne fait rien, vous êtes là, c'est formidable. Ça nous aide.
On est 10 000.
On est 10 000, hein, voilà. Pour la police, on est 10 000. Donc merci à tous, merci à toutes les associations qui sont venues avec nous. Merci à Chloé qui a fait plein de kilomètres pour venir nous voir, c'est formidable. Alors, je vais vous demander une dernière chose, on va se mettre là et on va prendre une photo. Alors avec la pancarte qui va aider nos sénateurs dans cette demande de suppression de l'obligation vaccinale. On essayera de ne pas masquer ARS Grand Est, on voit bien que c'était ici qu'on était, voilà. Et puis ensuite, pour ceux qui désirent, on pourrait peut-être aller se rafraîchir, comme disait Andreas, avec la chaleur, le médecin il peut vous demander d'aller boire un coup.